On va parler de coronavirus, mais d'une façon, disons, on sait que le coronavirus peut se transmettre par gouttelettes, par aérosol, et on a longtemps soupçonné aussi que, bon, on pouvait le contracter en touchant un objet qui aurait été contaminé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est très vrai? Est-ce que c'est faux? Toujours est-il qu'il y a une dizaine de jours, l'histoire a fait beaucoup fait jaser. Le CIUSSS de l'Estrie avait interdit les décorations de Noël dans ses établissements comme les CHSLD sous prétexte de coronavirus, sous prétexte que s'il y a un petit sapin sur une table, ben il pourrait transmettre le coronavirus. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui avaient été extrêmement surpris. Québec vient de changer la directive. On va en parler avec deux personnes, le chimiste Normand Voyer et juste avant, avec la journaliste de la presse Véronique Lauzon qui avait sorti l'histoire des décorations de Noël interdites par le CIUSSS de l'Estrie. Salut Véronique!
Allô, Patrick.
Donc, peut-être nous résumer, là, comment qu'est-ce que le CIUSSS de l'Estrie ne voulait pas voir dans ses murs?
En fait, on avait le droit juste de petites décorations au plafond. Mais oui, on avait droit à aucune décoration, pas de sapin, pas d'arbre à Noël, rien. Parce que, disait-il, ça pouvait être dangereux, c'était pour diminuer les vecteurs et de permettre la désinfection des surfaces fréquemment touchées. Alors, tous les CHSLD, les milieux de soins, les hôpitaux de l'Estrie avaient reçu cette directive. Et là, j'avais appelé d'autres CIUSSS parce que c'est un travailleur de la santé qui m'avait contacté pour me parler de ça. Et je me demandais, est-ce que c'est pareil partout? J'avais appelé d'autres CIUSSS et il y avait un relationniste d'un des CIUSSS qui m'avait demandé si c'était un vrai communiqué, tellement il était surpris par la directive quand même, hein, faut le faire. Et partout, c'était à peu près la même chose qu'on me disait, il n'y avait pas de règles aussi strictes. Oui, il faut faire attention, il faut respecter les mesures de prévention, le contrôle des infections, mais quand même, là, un patient pouvait mettre un bonhomme de neige dans sa vitre ou avoir un petit sapin de Noël à côté de sa table sur sa table de chevet.
Donc. Véronique, est-ce que le CIUSSS de l'Estrie avait fourni des données scientifiques pour appuyer cette interdiction-là, là, qui a été court-circuitée par Québec, là?
Oui, non. On avait, c'est ça, en fait, ce même relationniste-là m'avait dit, mais peut-être que je l'ai pas vu passer, mais qu'il y a eu un avis de l'Institut national de santé publique du Québec, là, tu sais, on demande souvent leur opinion, et je les avais contactés, il y avait rien émis pour l'instant, et là, finalement, ils l'ont fait aujourd'hui, là, mais à ce moment-là, non, il y avait personne qui avait, donc on savait pas sur quoi ils se basaient pour décider ça, ils avaient décidé ça avant l'Halloween. Donc, pour l'Halloween, il y avait personne qui avait le droit d'être déguisé et on n'avait pas le droit de décoration.
Donc là, la directive a été changée. Et qu'est-ce qu'on a dit pour expliquer la volte-face?
En fait, ils ont dit que ils avaient pensé à tout ça et que finalement, c'était accepté, que c'était pas si dangereux et surtout qu'on en avait besoin pour le moral, comme avait dit François Legault un peu plus tôt.
Vraiment intéressant. Parfait. Merci beaucoup, Véronique.
Ça fait plaisir. À bientôt.
Salut, Véronique Lauzon, journaliste à la presse. On va aller en parler avec un spécialiste immédiatement. Normand Voyer est chimiste et directeur scientifique de Protéo. Monsieur Voyer, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Bon, là, réglons la question de contracter le coronavirus en touchant un objet qui aurait peut-être, qui aurait été peut-être touché par le virus. Est-ce que c'est une façon qui peut propager le virus?
Oui, tout à fait. En fait, faut comprendre une chose, là. Au début, là, on savait absolument rien du virus-là, mais là, on commence à avoir beaucoup d'études scientifiques, puis ça nous permet maintenant de prendre des décisions sur des bases scientifiques un peu plus éclairées, là. Et puis, je vous avise tout de suite là, que moi, je suis en faveur des décorations de Noël, là. Je vous le dis, là, il n'y a pas de danger. On sait que c'est possible de toucher à une surface qui contient des particules virales. Puis, si on se touche le visage, on pourrait s'infecter comme ça. C'est possible avec d'autres virus aussi. Donc, c'est un mode de transmission qui est connu. Maintenant, il faut savoir le risque de ça. En ce moment, après tous ces mois-là qu'on a étudiés, la transmission du SARS-CoV-2, là, l'agent infectieux, par toucher des surfaces puis se contaminer, là, c'est très, 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 très peu possible. On connaît très peu de cas qu'il y a eu comme ça. C'est pas impossible. Il peut en avoir parce qu'on sait que le virus, maintenant, peut rester infectieux sur certaines surfaces pendant quelques heures, même quelques jours. Donc, ça, on le sait. On sait même quelle surface. Et donc, on peut savoir que, par exemple, si des comptoirs en acier inoxydable, il peut rester infectieux pendant quelques jours, jusqu'à 4 jours. Ça, c'est ce qu'on sait, mais dans la vérité, vous n'avez pas de décoration en acier inoxydable, là. Puis la plupart des décorations sont soit en plastique, donc quelques jours ou quelques heures, et ou en papier, qui là, ça dure une heure à deux heures ou trois heures. Donc, en fait, en réalité, c'est possible, mais est-ce que c'est un moyen de transmission du virus? C'est un moyen très, 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 très faible. Il y a beaucoup plus de dangers si on se lave pas les mains, si on ne respecte pas le 2 mètres, puis s'il y a des gens qui sont asymptomatiques se promènent. Donc, ça, c'est plus grave. Mais de contracter le virus par touchant une surface qui est contaminée, c'est possible, mais c'est pas un vecteur très, très, très important, même si c'est très rare, on ne connaît que très peu de cas d'infection à la COVID-19, là, qui ont été par ce mode-là.
Si je comprends bien, là, la séquence des événements fait que ça prend une grosse bad luck pour que... On va prendre le sapin de Noël, OK, dans un CHSLD, là. Quelqu'un qui est contaminé, qui vient de se passer une main dans le visage, qui a des gouttelettes, qui en met sur une branche de sapin en plastique, mettons, là. Là, moi, je passe là, dans la journée, là, je touche exactement au même endroit et après ça, avant de me laver les mains, avant de me passer les mains au purel, là, je me passe la main d'en face. C'est, ce que vous me dites, c'est que statistiquement, cette séquence-là, pour qu'elle transmette le virus, là, il faut vraiment être malchanceux.
Ben oui, il faut vraiment être malchanceux. Mais en fait, une mauvaise aération, on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus important. Il faudrait être très malchanceux. Ça, on ne le savait pas au début. Quand on ne sait pas comment le virus se transmet, on sait que certains virus se transmettent beaucoup par le toucher. Il ne faut pas nous ridiculiser ça, là, c'est super important. Oui. Mais,
comme une poignée de main.
C'est exactement, c'est un principe de précaution. Mais alors, on faisait plus que qu'est-ce que c'était nécessaire. Aujourd'hui, on le sait, là, après tout ce temps-là, faudrait que vous soyez vraiment, vraiment malchanceux. Il faudrait que vous soyez que touchiez au même endroit où ça peint en dedans de quelques heures et que là, vous ayez suffisamment de particules virales que vous allez mettre sous votre nez pour qu'ils puissent aller vous contaminer. C'est très peu probable.
OK, mais donc ce que vous me dites, c'est que au mois de mars, là, au début du mois d'avril, quand on était tous très peu connaissants là, par rapport au virus, sa façon de se transmettre, etc., là, quand on lavait notre épicerie, nos oranges, nos cannes de thon, à l'époque, on ne le savait pas, mais on faisait ça là, en pure perte. Là.
Ben, pas en pure perte, là. Je vous rappelle qu'il y a d'autres virus, il y a d'autres choses, puis qu'on ne le savait pas, mais que c'est pas impossible, là. Ça dépend. Là, il y a une différence que vous m'avez dit, est-ce que temporairement ça peut être ça? Mais là, supposons qu'on avait beaucoup plus de personnes asymptomatiques, ce qu'on ne savait pas, et qu'une personne va éternuer, c'est une grande quantité de petites gouttelettes qui vont arriver sur un seul endroit, et là, c'était possible, potentiellement. Le risque n'est pas zéro, OK? Il n'y a jamais de risque zéro, mais là, en ce moment, ce qu'on sait, c'est que c'est un mode de transmission qui est très, très, très rare, qui n'est pas très documenté. Donc, on sait maintenant que lorsque quelqu'un va contaminer une surface, là, ou un sapin de Noël, là, en éternuant sur le sapin de Noël, il faudrait vraiment être très malchanceux pour qu'un résident ait touché au sapin de Noël à la même place puis qu'il se contamine. Puis en passant, je pense que le plus important, c'est vraiment, vraiment de se laver les mains. C'est vraiment un moyen extrêmement efficace parce qu'on est chanceux, M. Legacy, le SARS-CoV-2, là, le gène infectieux, mais c'est vraiment une mauviette en termes de virus. Là.
Qu'est-ce que vous voulez dire, pardon?
Ben, c'est un des virus les plus faciles à tuer. En se lavant les mains avec du savon, il se désagrège très facilement et devient non infectieux. C'est pour ça qu'on dit que le meilleur moyen, encore une fois, c'est la distanciation, mais surtout de se laver les mains au moins 20 secondes au savon. Le bon vieux savon, ça fait la job, pas nécessaire d'être toujours au Purel, là. Ça fait la job. C'est vraiment un virus facile à détruire. Pas à détruire, mais à inactiver, si je peux dire.
OK. Par opposition à un virus qui est difficile à inactiver, qui serait quel type de virus?
Ben, il y a d'autres virus. Vous savez, les virus, là, c'est parmi là, les espèces infectieuses les plus prévalentes sur notre planète. Là. Il y en a des tonnes de virus, mais le virus de la gastro-entérite, par exemple, je sais pas si vous avez des enfants, là, quand il y a une gastro qui court dans la garderie ou bien à l'école, vous savez que ça va finir par arriver chez vous. Puis ça arrive chez vous quand il y en a un qui l'a. Ça, c'est des neurovirus. Puis ça, ceux-là, ils sont vraiment là, très, très, très pathogènes. Et puis, ils se transmettent vraiment facilement. Et c'est pas facile de les inactiver avec des agents nettoyants. C'est pour ça que faut vraiment faire attention, se laver bien comme il faut. Il y a des virus qui sont très, très, très résistants. Vous savez, on est sûr que celui-là ne soit pas résistant.
Qu'est-ce que, comme scientifique, là, comme chimiste, Normand Voyer, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ce qu'on a appris dernièrement à propos du coronavirus?
Oh, c'est une bonne question. Je vous dirais récemment ou bien au courant de tout ce qu'on a appris?
Ben, allons-y, là, excluons la période mars-avril quand on était là, à l'aveugle là-dedans, là, mais depuis, disons, le mois d'avril.
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense qu'il ne mute pas beaucoup, okay? Et qu'il ne s'adapte pas rapidement, ce qui fait que, ben, si ça avait été le cas, ben, ça aurait fait que le vaccin, un vaccin quelconque n'aurait pas été efficace. Là, en ce moment, on pense qu'on va avoir un vaccin qui va être efficace puis qui va traiter. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui faisait vraiment, vraiment peur au début aux scientifiques, là. Est-ce qu'on travaille pour rien puis, l'année prochaine, ça va revenir puis, on va avoir des problèmes? Là, ça semble pas être le cas. Ça, c'est vraiment un élément qui est très, très, très important. Et, ce qui nous surprend, c'est peut-être pas le virus plutôt que l'inventivité des scientifiques et quand tout le monde travaille ensemble, comment on peut rapidement trouver des solutions à une pandémie comme ça. Là. Je vous rappelle qu'on va avoir développé un vaccin en moins d'un an. Là.
C'est un record dans l'histoire de l'humanité pour un vaccin. Là.
Oui, tout à fait. Puis ça démontre que lorsqu'on veut, évidemment, là, on est allé un petit peu plus vite dans toutes sortes d'étapes comme ça, mais ça prouve une chose, c'est que lorsque les scientifiques se mettent ensemble et puis qu'on partage l'information, n'oubliez pas toute l'information qui a été faite au niveau scientifique et partagée de façon gratuite et rapide maintenant dans les journaux scientifiques, ce qui n'était pas le cas pour d'autres. Pour avant la COVID-19. Et donc, là, ça nous permet de montrer clairement que l'accès aux données scientifiques rapidement, gratuitement, un peu partout sur la planète, ben ça fait progresser beaucoup plus vite les connaissances, mais aussi les solutions aux grands problèmes de l'humanité.
Trouvez-vous que les compagnies pharmaceutiques qui nous promettent là, des vaccins efficaces comme Pfizer, comme AstraZeneca, Moderna, etc., trouvez-vous que ces compagnies-là sont vraiment transparentes dans le partage des données qui donnent à penser qu'on peut être optimiste?
Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense que ils n'ont pas le choix d'être transparents. Disons que je connais pas toutes les données. Je peux pas répondre à cette question-là. Mais honnêtement, aujourd'hui, cacher des résultats qui seraient, par exemple, trichés sur X, Y, Z données, ça m'apparaît comme absolument impossible avec tous les moyens de communication et le nombre de personnes impliquées dans les recherches qui sont pour toute mise en œuvre pour développer un vaccin. Ça m'apparaît absolument implausible que ça soit caché, qu'on soit pas assez transparent, etc.
Merci de nous avoir parlé ce soir.
Ça m'a fait plaisir.
Salut.